Bonsoir à tous, alors on va commencer. Je me présente juste en deux minutes, Anne-Sophie Novel. Je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Céphir, qui s'occupe d'un projet écolo-info qui a été fondé il y a 4 ans et qui a pour vocation de faciliter l'accès à l'information de l'écologie et du développement durable. Et nous travaillons avec la librairie Mola depuis septembre 2009, il me semble. Et donc, de manière récurrente, nous organisons des conférences autour des thématiques qui nous sont chères. Donc je suis ravie d'accueillir Corinne Lepage ce soir à l'occasion de la sortie de son dernier livre « La vérité sur le nucléaire ». D'autant qu'en janvier 2010, nous avions accueilli ici à la librairie Mola, Laure Noala, qui est intervenue sur les déchets du nucléaire. Donc voilà, ça fait une petite suite, on pourra mettre en regard les deux interventions. Donc, pour vous introduire un petit peu, Corinne Lepage, vous êtes avocate, ancienne ministre de l'Environnement, fondatrice et présidente du mouvement CAP21. Vous êtes aussi députée au Parlement européen depuis 2009, présidente fondatrice du CRIGEL, le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, et aussi prof à Sciences Po Paris. J'ai rien oublié?
Je ne suis plus prof parce que j'ai plus le temps, malheureusement.
Donc voilà, donc moi j'ai trouvé votre livre vraiment, vraiment passionnant et qui fait le point sur le tabou français dans un contexte post-Fukushima avec la catastrophe à laquelle nous avons tous assisté à distance qui a lieu en mars 2011 et que vous comparez d'ailleurs à un événement comme le 11 septembre 2001 à son échelle. Dans un contexte où les Italiens viennent de décider de ne pas faire le choix du nucléaire, où l'Allemagne a dit qu'elle allait aussi mettre fin à l'exploitation du nucléaire, enfin à l'utilisation du nucléaire, sans parler, on veut dire, de la non-reconduction d'Anne Lauvergeon à la tête d'Areva, ou de récemment du ministre Éric Besson qui a quitté le plateau de Capital lorsqu'on a interrogé sur ces sujets-là. Donc autant dire que c'est une actualité brûlante et que votre ouvrage arrive dans ce contexte-là. Et donc, à vous lire, j'ai juste envie de dire qu'on comprend que le nucléaire, c'est vraiment pas clair du tout. Donc, ma première question serait de savoir, pour vous, qu'est-ce que Fukushima a changé ?
Alors, je vais vous répondre. D'abord, bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous et à la librairie Mola de m'accueillir. Juste un tout petit mot avant de répondre à votre question pour vous dire que, en fait, ce livre, je ne l'ai pas écrit après Fukushima. J'ai commencé à travailler à ce qui est devenu ce livre, mais sous une forme différente à Noël. Et j'ai lancé sur E89 le 9 février ou le 7 février 2011, donc vous voyez, un mois avant Fukushima, ce qui pour moi était une série d'articles sur l'aspect économique et financier du nucléaire. Parce que le début de ma réflexion, c'était de me dire, est-ce qu'après tout, on n'est pas en train de faire un choix qui est suicidaire sur le plan économique? Et le début de ma réflexion, il était d'ordre économique et financier, et pas autre chose. Et vous pourrez en trouver la trace, puisque beaucoup d'articles ont été publiés sur mon blog entre février et fin mars 2011. Certains ont été publiés dans la presse, Les Échos, La Tribune, développementdurable.com, Actu Environnement. Enfin, j'en ai distribué un certain nombre à ceux qui voulaient bien le prendre, parce que je dois vous dire qu'avant Fukushima, ça n'intéressait pas grand monde quand même, hein, des articles sur ce sujet. Et c'est après Fukushima que je me suis dit, bon, ben, il faut reprendre le sujet, réécrire ça différemment et en faire un bouquin. C'est comme ça que ce bouquin est né. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la réflexion, elle était antérieure. Ce qui me conduit à répondre à votre question. Qu'est-ce qui change avec Fukushima? Mais il y a beaucoup de choses qui changent. D'abord, je dirais, sur le plan symbolique et politique. Certes, il y a eu Tchernobyl, mais Tchernobyl, dans notre esprit collectif, si je puis dire, c'était arrivé en Union soviétique, un pays totalitaire, un pays qui nous a été présenté certes comme très fort sur le plan scientifique, mais avec une administration à la fois pléthorique et défaillante. Et donc, ceci pouvait expliquer cela. Je ne suis pas tout à fait sûre du reste que l'explication soit celle-là. Mais enfin, peu importe, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails parce que sur le plan nucléaire, très franchement, la science soviétique tient la route, hein, et russe aussi. Le Japon, c'est autre chose. Le Japon, c'est un pays industrialisé, comme le nôtre. C'est un pays démocratique, même si la culture est différente. C'est un pays qui nous était présenté comme l'exemple, le parangon de vertu de la culture du risque. Parce que les Japonais sont soumis au risque de tremblement de terre, au risque de tsunami, et que par conséquent, ce sont des paramètres qu'ils avaient pris en compte depuis très 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 longtemps. Et les constructions parasismiques japonaises étaient citées en exemple. Donc, de nous dire que ce qui est impensable était arrivé dans un pays comparable au nôtre, ça a déjà été un traumatisme. Mais il y en a un deuxième qui suit. C'est qu'on s'est rendu compte à cette occasion que la manière dont nous avions évalué les risques liés aux centrales nucléaires était fausse. Pourquoi ? Parce que la méthode qui a été choisie est une méthode dite probabiliste. C'est des scénarios. C'est-à-dire qu'on essaie d'imaginer tous les scénarios catastrophiques possibles et de trouver la parade. S'il se passe ça, pour éviter que ça se passe, on va faire ça, ça et ça. C'est un scénario qu'on peut imaginer fonctionner, et encore, quand c'est le bon scénario qui se passe. Le problème avec Fukushima, c'est que personne n'avait imaginé ce scénario-là. Et que donc, quand il s'est produit, on a dit l'impensable s'est produit, ben oui, l'impensable, c'était peut-être pas impensable, mais en tout cas, c'était impensé. Ça, c'est sûr. Et par voie de conséquence, on s'est rendu compte que toute la manière dont nous avions évalué nos risques était fausse. Et M. Lacoste, qui est le président de l'autorité de sûreté nucléaire, a par exemple reconnu très clairement que pour Fessenheim, le scénario d'un cumul entre un tremblement de terre, puisque c'est une zone sismique, et une inondation, puisque c'est le long du canal du Rhin et que c'est plus bas que le canal du Rhin, pas plus haut, mais plus bas, n'avait jamais été imaginé. Donc c'est toute notre méthode d'évaluation des risques qui est en fait remise en cause. Ce qui est très embêtant, parce que cela remet en cause la conception même des centrales. C'est-à-dire que l'idée qu'on va pouvoir, si on tombe sur des cas qui ont été complètement inenvisagés comme celui que je viens de citer, que l'on puisse mettre des rustines, en quelque sorte, pour réparer une erreur de conception, c'est quelque chose qui est quand même un peu gênant. D'où, si on met en cumul ces deux considérations, un, ça peut arriver dans un pays comme le nôtre, et deux, on s'est tous trompés sur la manière dont on a évalué le risque, on arrive à trois, et si ça se passait chez nous ? Et quand on se pose cette question-là, et c'est ce que j'ai étudié dans un... Enfin, étudié, c'est pas des études, hein, ce que j'ai imaginé dans un des chapitres du livre, bah, on est quand même un peu inquiet. Alors, on peut le prendre à la rigolade, parce qu'il y a des moments où, très franchement, ça fait rigoler, sauf que c'est pas drôle du tout. Alors, deux points pour illustrer mon propos. Bugey, 30 km de Lyon. Fukushima, vous voyez Fukushima, 30 km. C'est la zone où on a demandé aux gens de bien vouloir partir. Comment est-ce qu'on fait ça dans une ville comme Lyon ? C'est impossible. Gravelines, c'est 20 km de Dunkerque. C'est une plus petite ville, mais quand même. Donc, premier sujet, comment on évacue les gens ? Je ne parle même pas du confinement, mais de l'évacuation. Deuxième point, moi qui m'a beaucoup étonné, parce que je n'avais pas regardé, je dois vous dire, le sujet depuis un certain temps. Donc je suis tombée sur un organisme nouveau, et nous on est très fort en France pour faire des comités Théodule, qui s'appelle le CODIRPA. Un CODIRPA, ça veut dire quelque chose qui est chargé d'évaluer les scénarios d'accident. Alors le CODIRPA a été créé en 2004-2005, et je cite la lettre de commande qui est édifiante, hein, qui lui a été adressée par le ministère de l'Industrie. On leur demande d'étudier un scénario pas trop pénalisant. Le scénario pénalisant, ce sera pour plus tard. Donc ça date de 2005, on est en 2011, il n'y a toujours pas de scénario pénalisant. Et donc on leur dit, ben voilà, vous imaginez un scénario pas trop pénalisant sur le plan de la gravité et de l'impact géographique. Donc, ils ont imaginé une fusion de cœur du réacteur pendant une heure. Ça veut dire évacuer sur 2 km et confiner sur 5 km. Ça va ? Ben non, ça va pas du tout. Et donc, je raconte dans le bouquin les exercices d'évacuation, notamment à Belleville-sur-Loire, où je cite ce que disent les sapeurs-pompiers de la manière dont ça se passe. C'est-à-dire qu'on est incapable même de faire ça. De faire un exercice où tout le monde est préparé et tout le monde est prévenu, 2 km d'évacuation, 5 km de confinement, ça ne le fait pas. Voilà, donc, on a une série de questions comme ça qu'on a quand même sur la table et qui amènent à se dire, mais est-ce que le jeu en vaut bien la chandelle ? Avant de vous rejoindre, je suis allée jusqu'au Blayais, là, et pour y arriver, je suis passée par tous ces noms qui sonnent magnifiquement à nos oreilles hein, de Français. Saint-Julien, Pauillac, etc., Saint-Estève, etc. Et nous nous sommes arrêtés à Saint-Estève, où nous avons une vue admirable sur la centrale, qui est juste de l'autre côté de l'eau. Hein, et je me disais, mais si un jour il y a un pépin, même mineur, même un scénario pas pénalisant, là, mais ils en prennent, c'est sur eux, c'est tout à côté. Donc est-ce qu'on a même songé à l'impact économique, et on va reparler d'économie, je pense, l'impact économique que pourrait avoir un pépin, même pas le pépin le pire qu'on puisse imaginer. Lorsqu'il y a eu un problème à Tricastin il y a 3 ans, où il y a eu du plutonium qui s'est échappé, tout seul, du Tricastin. Le résultat des courses, si j'ose dire, ça a été une interdiction pour tous les vendeurs de primeurs du coin de vendre leurs primeurs et une interdiction pour les viticulteurs de récolter pour cette année-là. Ceci étant, ils ont été obligés de changer de nom parce que plus personne ne voulait acheter du vin du Tricastin. Voilà, donc c'est ça que change. L'affaire de Fukushima.
Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a passionnée dans votre livre, c'est le chapitre dans lequel vous expliquez à quel point c'est une industrie hors norme. En fait, moi, il y a plein de choses que j'ignorais. Pourtant, je suis assez informée, je pense, sur le sujet par rapport à la majorité de la population française, mais on comprend qu'il y a énormément de contorsions juridiques, de passe-droits, et on comprend aussi que le nucléaire, c'est propre, mais c'est aussi ses propres lois. Et j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu là-dessus pour expliquer...
Alors ça, c'est mon très mauvais côté de juriste, vous savez, d'aller gratter un peu dans les textes pour voir comment ça se passe. Alors, c'est vrai que le nucléaire a son droit à lui. Mais là, on n'est pas nous les seuls Français à être dans ce cas-là. C'est international. Alors, je vais pas tout vous raconter, parce que ce serait trop long, mais vous donner quelques exemples comme ça. Premier, celui qui me choque le plus. Commençons par cela. Vous savez qu'il y a 2 organismes, l'un qui s'appelle l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui est chargé de promouvoir l'usage civil et pacifique de l'atome dans le monde, mais qui en réalité est chargé de promouvoir le développement de l'énergie nucléaire dans le monde. Puis il y a une autre organisation, dont vous avez peut-être entendu parler aussi, qui s'appelle l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Celle-là, elle est censée s'occuper de notre santé à tous, nous les terriens, les humains. L'OMS peut éventuellement, au passage, être intéressée par ce qui se passe à Tchernobyl ou ce qui se passe à Fukushima ou ce qui s'est passé à Three Mile Island, etc. Eh bien, il y a une convention qui date de 1957, que je cite dans mon bouquin, qui a été passée entre l'OMS et l'AIEA et qui marche toujours, qui interdit à l'OMS de communiquer sans l'accord préalable de l'AIEA. C'est-à-dire que toutes les informations qui sont données dans le domaine de la santé, au niveau mondial, sont filtrées par l'AIEA. C'est la raison pour laquelle vous avez des écharpages, si j'ose dire, permanents sur les victimes de Tchernobyl, où certains disent c'est 42 morts, et Kofi Annan avait dit il y a 7 millions de victimes à Tchernobyl. On se dit, mais... Je comprends pas, enfin, c'est aberrant. La vérité est que l'absence de données contrôlées au niveau international a été scientifiquement organisée pour qu'il ne puisse pas y avoir de données fiables sur la réalité des conséquences sanitaires de Tchernobyl. Donc on peut s'envoyer des données à la figure jusqu'à la nuit des temps. Il y a certes un travail colossal qui a été fait sur place par un certain nombre d'équipes, notamment sur les, ce qu'on a appelé les liquidateurs, qui ne sont pas seulement les pauvres types qu'on a envoyés les 100 premiers jours, mais tous ceux qui, pendant 10 ans, se sont succédés à Tchernobyl. Aujourd'hui, on ne les appelle plus des liquidateurs, mais il y en a encore. Et il y en a eu 800 000, dont une partie, une petite partie, a fait l'objet d'un suivi épidémiologique. Les autres, rien du tout. Donc, personne ne sait ce qu'ils sont devenus, s'ils sont morts, s'ils ont eu des cancers. Pff, aucun suivi. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui, pour moi, qui m'intéresse quand même depuis longtemps aux questions santé-environnement, est horriblement choquant. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas disposer de connaissances scientifiques honnêtes sur des sujets de cette nature. Deuxième sujet hors droit, je vous en donnais deux internationales, puis un ou deux français, un européen aussi. Deuxième sujet, qui n'est pas totalement négligeable, l'assurance. Il existe une convention, même une série de conventions, je vous passe les noms parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, pour organiser la responsabilité civile dans le domaine des accidents nucléaires. Alors on se dit, c'est vachement bien, c'est assuré. Ensuite, quand on va chercher, c'est un peu moins bien. C'est-à-dire que le système est organisé à trois étages. Le premier étage, c'est l'exploitant qui paye. En France, c'est 91 millions par accident. C'est pas trop. 91 millions d'euros pour un accident nucléaire, ça va. Ensuite, c'est l'État qui paye. Et ensuite, c'est la communauté des États qui paye. Et le plafond, c'est 1,5 milliard d'euros. Ce qui n'est rien pour un accident nucléaire. Rien. TEPCO est déjà à plusieurs milliards d'euros et il est au début du commencement. 1,5 milliard d'euros pour tout. Les dommages, c'est-à-dire la réparation, l'indemnisation des gens, l'indemnisation des terres, enfin tout. Autrement dit, c'est pas assuré. Et pourquoi est-ce permis ? Ben parce qu'il y a une convention internationale hors du droit qui permet ça. Au niveau européen, nous avons beaucoup de débats, comme vous le savez actuellement, au niveau européen, on y reviendra peut-être sur on sort pas du nucléaire, etc. Eh bien, au niveau européen, il y a un traité qui s'appelle Euratom, qui date de 1957, qui gère le nucléaire. Et cette gestion-là, elle n'est pas dans le traité de Lisbonne. Donc il faut l'unanimité pour toutes les décisions sur le nucléaire. Donc quand la France, puisque c'est nous, sur les stress tests, dit « nous, on ne veut pas que ce soit obligatoire », c'est pas obligatoire. Nous, on ne veut pas qu'il y ait les avions qui se cassent la figure dans les stress tests. Il n'y a pas les avions qui se cassent la figure dans les stress tests, etc. etc. Parce qu'on n'est pas dans le droit communautaire. On est dans du droit à part. Un mot sur la France, en droit français. Alors, tout est dérogatoire. Du reste, il n'y a pas eu de loi au départ pour permettre le nucléaire en France. C'est un décret, donc un acte du Premier ministre, qui date de 1963, qui a permis tout le programme nucléaire français. La première loi est de 1991, elle concerne les déchets, 1991, puis ensuite 2005. Tout est dérogatoire du droit commun. Il n'y a qu'une chose qui était dans le droit commun, c'était l'eau. Les pollutions des eaux, pollution chimique des eaux, c'est sorti. Il y a un texte de 2007 qui a sorti la pollution de l'eau du droit, venue des centrales nucléaires, la pollution chimique, du droit commun, et maintenant il y a un texte spécifique. Évidemment, tous ces textes spécifiques sont beaucoup plus favorables à l'industrie du nucléaire qu'ils ne le sont pour toutes les autres industries, y compris les Céveso, toutes les industries classées, d'installations classées que vous pouvez imaginer. Voilà un peu la manière dont ça se passe. C'est-à-dire que c'est un droit qui est complètement dérogatoire du droit commun, y compris bien sûr sur le secret. Mais ça, je pense qu'on y reviendra.
Oui, c'est assez flagrant et on se rend bien compte qu'il y a un vrai manque de débat démocratique. C'est aussi ça qui est assez effrayant et qui est posé comme question après Fukushima. Donc vous donnez aussi des sources d'information. Voilà, il y a quelques organismes quand même qui existent en France et qui tentent d'avoir une information fiable, notamment le scénario Négawatt ou la CRIRAD. Je crois, je ne me trompe pas.
Vous ne vous trompez pas.
Et donc on comprend à vous lire qu'il y a une croyance quasi religieuse, une confiance aveugle, notamment du corps des mines, hein, vous le citez bien. Mais que se passerait-il en France en cas de catastrophe, en fait, parce que vous êtes aussi attardé sur cette question.
Bah, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Dans l'idée, on s'est dit que ce n'était pas possible chez nous. Donc personne n'a ça dans notre tête. Donc on n'est absolument pas préparé. Alors il y a des pastilles d'iode qui sont à disposition des gens à proximité immédiate des centrales nucléaires. C'est d'abord des petits rayons. Et puis, il n'est pas du tout sûr. Bon, l'iode, c'est bien, ça protège sur l'iode irradioactif. Mais il y a le strontium, bien entendu, un plutonium, il vaut mieux pas y toucher parce que là on est mort quasiment tout de suite. Mais le strontium ou le césium, qui ont une durée de vie beaucoup plus longue, et là on n'a rien du tout pour se protéger, hein, absolument rien. Moi je suis quand même affolée de voir les pauvres gamins japonais qui vont à l'école avec leur dosimètre et pour lesquels on a changé les limites de dose parce que on savait qu'on pouvait pas respecter les doses normales, donc on a multiplié par je sais pas combien pour dire qu'on était dans les règles. Bon, enfin, évidemment, quand on fixe les règles comme ça, disait le sapeur camembert, quand les bandes sont franchies, il n'y a plus de limites. Hein, voilà.
Et par rapport au contexte international maintenant, parce que la France fait quand même figure de nation assez unique par rapport au nucléaire, vous attardez un petit peu là-dessus, notamment sur la sémantique qu'on a essayé de faire évoluer.
Un très joli exemple de l'actualité d'hier. Vous avez peut-être vu dans la presse que le président de la République a donc commenté le grand emprunt en indiquant qu'il y avait 1 milliard pour le nucléaire. Bon, ça, on a compris, nucléaire, c'est nucléaire, et notamment générateurs de la 4e génération, qui sont en fait des superphénix, qui n'a pas marché, mais c'est pas grave, on recommence. Nucléaire de la 4e génération. Et puis, vous avez une autre catégorie où on met 1,35 milliard, c'est quand même déjà pas mal d'argent, qui s'appelle énergie renouvelable et décarbonée. Alors, on se dit, tiens, c'est quoi ça? Parce qu'on pourrait mettre énergie renouvelable tout court, donc ça, tout le monde sait ce que c'est. Mais non, c'est énergie renouvelable et énergie décarbonée. Eh bien, en langage codé, que je vais vous décoder, décarboné veut dire nucléaire. Ben oui, parce que le nucléaire ne produit pas de carbone, comme chacun sait, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais enfin, c'est quand même ce qu'on dit. Donc, quand vous avez énergie décarbonée, ça veut dire énergie nucléaire. On vous dit, oui, mais c'est pas seulement nucléaire, c'est aussi hydroélectrique. Oui, enfin, je vois pas bien l'argent qu'on va mettre dans les barrages. Donc, les 1,35 milliard, ça veut dire qu'il y a encore une grosse louche pour le nucléaire dans cette catégorie-là, mais simplement, on l'a classé dans la catégorie du renouvelable et décarboné. Voilà, donc, comme on a essayé, lobby français a essayé au niveau européen, de dire d'abord que le nucléaire était renouvelable. Ça, c'était un peu dur quand même. Il y a quand même des limites, malgré tout. Parce que l'uranium, c'est pas renouvelable. Donc ça va pas. Donc, on est quand même vachement intelligent. On a plein d'idées chez nous. Donc, on s'est dit, on va trouver un autre mot. On va changer la sémantique. Et on est tombé sur énergie décarbonée. Et énergie décarbonée égale énergie durable. Puisque luttant contre le changement climatique. Donc, on s'est battu pour assimiler énergie décarbonée à énergie durable, à énergie renouvelable. Vous voyez le glissement? Donc je passe de nucléaire à décarboné, de décarboné à durable, de durable à renouvelable. Et le tour est joué. Alors ça a pas mal marché jusqu'à Fukushima. Là maintenant, je crois que c'est mort au niveau communautaire. Mais quand même, voilà. Donc regardez ce qui a été dit hier et vous verrez. Et moi j'ai cherché la part entre renouvelable et décarboné, je ne l'ai pas trouvé. Bon, je finirai par la trouver, parce que la réalité de ce qu'on va donner au nucléaire, il faut ajouter l'un et l'autre.
Et donc du coup, ça nous permet de rebondir justement sur cette question de la part des énergies renouvelables en France, sur les choix énergétiques, parce qu'on entend beaucoup dire, en tout cas des partisans du nucléaire, que renoncer au nucléaire, c'est revenir à la bougie.
Bien sûr, surtout se chauffer, ce que je trouve sur le plan sportif quand même assez remarquable. Parce que chauffer à la bougie, s'éclairer encore, je veux bien, mais se chauffer... Ça, je trouve ça quand même très fort.
Et donc, vous donnez quelques chiffres quand même pour démontrer l'inverse. Et si vous pouvez peut-être expliquer un petit peu la logique de...
Alors, si vous voulez, moi, ça, c'est le départ de ma réflexion. Parce qu'on nous dit deux choses. On nous dit trois choses, en fait, pour défendre le nucléaire. On nous dit d'abord, c'est l'indépendance nationale. Deux, c'est pas cher. Et trois, on est les champions du monde. Et donc, il faut défendre les domaines dans lesquels on est les champions du monde. Alors je dis un, indépendance nationale, peut-être, mais l'uranium, il n'est pas chez nous. Donc quand on va le chercher au Niger ou au Mali, on voit à peu près ce que ça donne. Donc indépendance nationale, pas terrible. Et du reste, si on prend ce critère-là, notre taux d'indépendance nationale tombe à 9%, et non pas à 49 ou 45 comme on nous le dit. Donc ça se discute. Par contre, le vent, le soleil et l'eau, ou la biomasse, c'est chez nous. Donc là, c'est notre propre matière première. Donc sur l'indépendance nationale, je pense que le renouvelable l'emporte sur le nucléaire. Deuxième critère, c'est pas cher. Alors, il y a des choses qui sont vraies et des choses pas vraies. Ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas payé cher notre électricité jusqu'à maintenant. Nous ne sommes pas les meilleurs marchés d'Europe, mais nous sommes dans la fourchette basse de l'Europe. C'est vrai. C'est vrai pour deux raisons. La première, parce que c'est un choix politique. La France a fait le choix, parce qu'elle avait du nucléaire, de le vendre bon marché pour en vendre beaucoup. Et c'est comme ça que les gens ont été engagés, notamment à se chauffer à l'électricité, ce qui est une aberration, parce que précisément, c'était le moyen d'assurer la vente continue de l'électricité nucléaire produite qui ne se stocke pas, celle-là comme les autres. Donc, pour faciliter le chauffage électrique et donc la vente d'électricité, on a fait un choix politique qui était une électricité à bas coût. Le Danemark, qui produit une électricité à peu près au même prix de revient que nous, vend son électricité quasiment deux fois plus cher. Moyennant quoi, la consommation électrique du Danemark a baissé considérablement, alors que nous n'avons pas été capables de faire baisser notre consommation électrique et que si elle plafonne aujourd'hui, elle a considérablement augmenté au cours des 20 dernières années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que dans le prix que nous avons payé du nucléaire, nous n'avons payé qu'une partie du coût du nucléaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas payé pour le démantèlement qui est à venir et nous n'avons pas payé pour le traitement des déchets à long terme. Alors, sur la question du démantèlement, très rapidement, nous avons EDF a provisionné, avec un tour de passe-passe que j'explique, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, 15 milliards d'euros. Vous allez dire, 15 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le coût réel du démantèlement. Si on prend les critères que l'Angleterre a choisis pour évaluer ses propres coûts de démantèlement, on est plutôt entre 150 et 200 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est une dette que nous avons contractée, parce que ces centrales, de toute façon, il va falloir les démanteler. Il va falloir payer. Ou alors, on ne va pas les démanteler, ça veut dire qu'on va laisser à nos gamins des centrales nucléaires pas démantelées. Donc, dans les deux cas, c'est une dette publique. Elle est financière ou elle est physique, mais dans les deux cas, elle existe. Et de toute façon, on n'a pas payé. Deuxièmement, on n'a pas payé pour les déchets à vie longue. Alors, vous savez là qu'il y a un projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure. Alors, ça, c'est très amusant sur les prix. Tant qu'il s'est agi de nous dire que c'était formidable d'aller enfouir des déchets radioactifs, ça coûtait 15 milliards. Maintenant qu'il va falloir passer à la phase active et qu'EDF va payer, c'est 35 milliards. Et EDF a dit, moi, je ne paye pas. Je ne paye pas. Je ne les ai pas, je ne paye pas. Et donc, y a une bagarre autour de Bure. Est-ce qu'on va faire Bure ou pas ? Alors, EDF dit, on ne va pas faire Bure, on va faire un enfouissement de nos déchets radioactifs dans une mine de sel. Et là, on dit, attendez, il faut peut-être réfléchir un peu. Les Allemands ont fait ça à Haas. Les mines de sel passant pour les endroits, finalement, où c'est les endroits les plus fermés, les plus homogènes et ne permettant pas la pollution, manque de peau, la nappe phréatique est complètement polluée par la radioactivité et donc on est obligé de déménager les déchets. Et on ne sait pas bien comment faire. Donc peut-être qu'avant nous de faire la même chose, il faut peut-être réfléchir un peu. Tout ceci pour dire qu'on ne l'a pas intégré dans notre prix. Donc c'est normal que ça n'ait pas coûté très cher. Mais la vérité, c'est que demain, si nous continuons dans le nucléaire, c'est-à-dire que nous faisons de nouvelles installations, c'est plus du tout la même musique. Le prix du kilowattheure qui va sortir de Flamanville, si on fait Flamanville, est le double du prix du kilowatt qui sort aujourd'hui d'une centrale qui a été amortie. On est autour de 65 centimes. Le prix de revient de l'éolien, c'est 70 centimes. Et si le prix du photovoltaïque est aujourd'hui beaucoup plus cher, des entreprises comme General Electric, par exemple, ont décidé et ont annoncé il y a quelques semaines qu'elles arrêtaient toute production d'énergie nucléaire parce qu'elles considéraient que dans 4 à 5 ans, le kilowattheure photovoltaïque serait moins cher que le kilowattheure nucléaire. Tout ceci pour dire que la présentation de notre sujet sur le mode « Vous avez le choix entre du nucléaire pas cher et du renouvelable très cher », c'est pas vrai. Et deuxièmement, et c'est peut-être pour moi le plus grave, c'est que je suis convaincue que nous sommes en train de passer à côté de la seule manière de réindustrialiser et de remettre de la dynamique économique dans ce pays. C'est-à-dire que quand on voit que les Allemands ont créé 375 000 emplois en 10 ans dans les énergies renouvelables, que l'Espagne, que le Danemark, que l'Allemagne, que la Suisse, que tous les pays qui nous entourent, même l'Angleterre avec l'énergie houlomotrice, c'est-à-dire des marais, sont en train de constituer des gros pôles industriels et que nous, on est incapable de le faire parce que chaque fois qu'un secteur commence à se développer, on le casse. C'est ce qui vient de se passer sur le photovoltaïque. C'est 25 000 emplois qui vont foutre le camp, tout simplement. Eh bien, je me dis, mais on est fou. On est suicidaire. On est d'autant plus suicidaire que notre secteur nucléaire n'est pas le champion qu'on nous raconte. Ce n'est plus vrai. On peut le regretter ou pas le regretter, mais ce n'est plus vrai. J'ai fait la liste dans le bouquin, alors ça c'est antérieur à Fukushima, de toutes les centrales qui étaient en construction dans le monde. Il y en a 4 pour l'EPR. Une à Flamanville, une en Finlande, dont vous savez qu'elle nous coûte très très cher, puisqu'on est à Flamanville comme la Finlande, on est autour de 6 milliards d'euros l'unité maintenant. Il y en a 2 projetées en Chine, qui ne sont pas encore signés définitivement parce que c'est dans le cadre d'une joint venture dans laquelle Areva était minoritaire, les Chinois exigeant le transfert de technologie pour signer. Et Areva étant pas totalement idiot, n'avait pas envie de transférer sa technologie, ce qu'on peut comprendre. Tous les autres projets, c'est Rosatom, c'est les Coréens, c'est qui vous voulez, mais c'est pas nous. Donc, je me dis, mais on a un secteur qui, en fait, est en difficulté industrielle, et on le voit avec ce qui s'est passé à Areva, je crois que maintenant, tout le monde a compris ça, qui est en vraie difficulté. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos salariés d'Areva, qui a encore plus grande difficulté qu'EDF? Nous avons 120 000 personnes aujourd'hui dans la filière nucléaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là, si on se casse la figure ? Alors même qu'on n'est pas capable dans le même temps d'investir sur les nouveaux marchés. Et la France pourrait avoir on a un marché intérieur. Les Français, ils n'ont pas forcément envie d'acheter des panneaux japonais, simplement ils n'en trouvent pas de Français. Donc s'ils veulent des panneaux photovoltaïques, ils ne peuvent pas acheter français, il n'y en a pas. Pourquoi, au lieu d'investir pour avoir des filières françaises sur tous ces sujets, et il y a... Bon, c'est un domaine qui est en pleine expansion, qui est en plein changement. Donc, si on n'est pas les bons de la première génération, on peut être les bons de la troisième. On a des ingénieurs formidables dans notre pays. Simplement, il faut effectivement favoriser, ouvrir le marché, donner une visibilité, pas changer les prix tous les 3 jours, multiplier les procédures pour être sûr que ça devienne irréalisable. Je me dis, mais où va-t-on ? En termes d'emploi et en termes d'activité économique. Et je dirais que le départ de ma réflexion, c'était ça, avant Fukushima. C'est de me dire, mais on est fou. Je veux bien comprendre que l'État considère que son intérêt et celui du nucléaire, c'est le même, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'intérêt de l'État, c'est l'intérêt des Français. Et notre intérêt à nous, Français, c'est pas ça. Voilà, c'est... Et donc, j'ai essayé, en donnant des éléments du débat, de permettre à tout un chacun de se faire une idée et d'avoir des éléments d'information qu'on n'a pas. Et c'est peut-être ça qui est le plus agaçant, c'est qu'on nous parle de temps en temps du nucléaire, on nous parle de l'Auvergeon, on nous parle de l'EPR qui a pris du retard, on nous parle de ceci ou de cela, mais on n'a jamais une vision d'ensemble du sujet. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de ramasser, de mettre côte à côte tout l'éventail du sujet. La sécurité, l'emploi, l'économie, la finance, et puis de voir comment on pouvait sortir de cela de manière réaliste. Je terminerai en disant que le sujet n'est pas religieux. Moi, je n'ai pas un dogme anti-nucléaire. Je ne suis pas dans la religion de l'anti-nucléarisme, ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est quel est notre intérêt ? Nous sommes dans une grave crise économique et financière. Nous sommes un pays en voie de désindustrialisation massive. Quel est notre intérêt aujourd'hui? Est-ce que c'est de continuer à mettre des milliards d'euros dans la filière nucléaire? Ou est-ce que c'est au contraire notre intérêt de mettre des milliards d'euros dans d'autres filières dans lesquelles nous pourrions avoir de l'excellence? Par exemple, le CEA investit dans un certain nombre de nouvelles filières. Simplement, c'est epsilonien à côté de ce qu'il met dans le nucléaire. Voilà, c'est un peu ça, si vous voulez, le sens de ma réflexion. Elle est un peu froide, et en même temps, je suis passionnée par mon sujet, mais j'ai essayé d'avoir un regard un peu froid pour dire, bah, écoutez, très franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle, ça suffit comme ça, changeons notre fusil d'épaule, et nous allons avoir un modèle de développement qui sera très différent. Parce que, et c'est le dernier point sur lequel j'aurais peut-être dire quelque chose, le problème, ce n'est pas un problème d'écolo. C'est même pas seulement un problème d'économie. C'est un problème de société. Une société qui choisit le nucléaire, surtout au niveau auquel nous l'avons choisi, nous. Enfin, choisi, si on peut dire. Parce qu'on ne l'a pas choisi, on ne nous a pas demandé notre avis. Mais enfin, on l'a choisi pour nous. Et une société qui n'est pas dans le nucléaire, ce sont deux modèles très différents. Dans un cas, vous avez un modèle centralisé, un modèle très jacobin, de production de grosses installations avec de très grosses entreprises. Et vous avez un modèle, bien entendu, dans lequel le secret a un rôle extrêmement important. Et de l'autre côté, vous avez une société qui, au contraire, va favoriser la décentralisation énergétique et l'interconnexion des réseaux. Une société donc qui va redonner une chance aux territoires beaucoup plus importantes, aux plus petites entreprises par rapport aux très grandes. Dans la mesure où chaque territoire peut avoir, je pense au territoire de forêt par exemple, ici vous êtes une région bénie des dieux, mais je pense à nos concitoyens des Ardennes par exemple, qui sont des coins qui sont difficiles. Bon, ils ont beaucoup de bois, ils pourraient faire des choses formidables avec la biomasse, encore tant est qu'on leur donne les moyens de le faire. Et une société qui peut être une société beaucoup plus ouverte parce qu'on n'a plus besoin de se cacher comme le nucléaire finalement conduit à le faire. Donc, si vous voulez, derrière ce sujet du nucléaire, c'est vraiment deux modèles de société qui se dessinent, deux voies très différentes. Et la moindre des choses, me semble-t-il, ce serait que nos concitoyens aient le droit de dire ce qu'ils choisissent. Et puis ensuite, eh bien, vox populi, vox dei. Si une majorité de Français dit « nous, on veut le nucléaire avec tout ce que cela comporte » et ayant parfaitement conscience de ce que cela comporte, on en porte le risque. Mais par contre, si une grande majorité, ça paraît être le cas de Français, disent nous on n'en veut plus, eh bien il faut que nous ayons le droit d'en sortir.
Et c'est le cas dans les derniers sondages qui ont été publiés récemment. Les Français sont majoritairement contre, si je ne me trompe pas.
Je suis à Bruxelles ensuite, demain matin pour tout vous dire. Donc je dois prendre mon train à 7h du matin. J'ai bien regardé s'il y a un vol Bordeaux-Bruxelles, mais je n'ai pas trouvé. Donc je rentre à Paris à 11h ce soir et je reprends mon train à 7h01 demain matin. Pour être à Bruxelles à 9h, où je vais me bagarrer sur les OGM, puisque je suis rapporteur du projet de directive sur les OGM et que nous le votons en plénière la semaine prochaine. Donc j'ai fort à faire aussi sur ce sujet-là. Voilà, merci infiniment.
Merci beaucoup. Je suis désolée.